Chapitre 63. Deux voitures banalisées fendaient la campagne noire en direction d'Évreux. Charcot n'avait pas voulu prendre de risques, tandis que Nicolas et Audra s'enfonceraient entre les neuf têtes de l'hydre, trois hommes, dont Pascal Robillard, planqueraient dans un véhicule et interviendraient en cas de pépin. Si Nicolas était resté habillé tel quel, jean, blouson de cuir, Doc Martens, Audra avait adopté un look en conséquence. Eyeliner et mascara noir, rouge à lèvres violine, teint de talc. Ses cheveux au carré, un cuir moulant et une veste queue de pie en panne de velours complétaient le tableau. Pas de flingue, il serait sûrement fouillé avant d'entrer sur les lieux. Il avait été décidé, après une longue prise de bec entre Nicolas et Charcot, qu'elle porterait la puce maintenue sur la face interne de son poignet par un sparadrap couleur peau. Elle savait convaincre. Avec un passage au service des stupes, elle était capable de se fondre dans le décor. Mais quoi qu'il arrive, il devait rester à deux. Le capitaine de police la trouva bluffante, mais il garda cette impression pour lui. Il conduisait, concentré sur la route sinueuse, destination nulle part. Ils avaient passé la journée à récolter des informations sur l'hydre, à s'intéresser au parcours et personnalité des trois membres fondateurs. Les fichiers n'avaient rien fait ressortir, casier vierge. Christophe Dolz, le seul mec du trio, était à l'évidence fasciné par les poupées, au point d'arborer ce look d'homme de cire. Avant l'hydre, il avait été photographe et avait fabriqué sur ordinateur des femmes robots en pièces détachées. Des poupées transparentes avec des organes qu'il avait ensuite matérialisés avec des imprimantes 3D. Il avait pas mal exposé dans des galeries réputées de Tokyo. Quant à ses deux comparses, rien de particulier. L'une avait été graphiste, l'autre performeuse dans une boîte de striptease à Paris. Les langues des phares léchaient désormais des fossés obscurs, des collines muettes, des talus perdus. Toute trace de civilisation avait disparu. Après des kilomètres, des points lumineux blancs, bleus, verts, suspendus dans les airs, se dessinèrent enfin autour d'une aube rosée et palpitante. L'ancienne usine textile qui abritait l'hydre. Le véhicule suiveur ralentit et les laissa s'éloigner. Le décor vira au paysage industriel avec des cheminées, des tuyères branlantes, des rails aériens. L'hydre se déployait en périphérie de la zone. Par une route pavée, on accédait à un large parking aux contours mal définis. Les pneus de centaines de voitures, de vannes et de motos pataugeaient dans la boue. Nicolas se gara comme il put et ils sortirent du véhicule avec un objectif principal en tête, repérer des visages, chercher des masques, observer des mains. Accrocher, peut-être, un membre du clan et ne plus le lâcher. Avant de claquer les portières, ils déclenchèrent les micros de leur téléphone grâce à une application. Les engins paraissaient éteints, mais des oreilles écoutaient. Un martèlement de basse, un vrombissement de musique lourde donnait l'illusion que les forges de l'enfer tournaient à plein régime sous terre. Audra récupéra deux canettes dans son sac et en balança une à Nicolas.
« Faut se détendre. Si on y va avec un balai dans le cul, ça ne va pas le faire. Combien tu peux tenir de bière en restant sobre ?»«
Je ne sais pas. Trois, quatre. »«
On va en boire deux. Une maintenant, une dedans. Allez, enfile. »
« T'es consciente que ton commandant de police t'écoute ?»«
Dans ce cas, santé à mon commandant !»
Elle engloutit son alcool et écrasa la boîte du talon avant de la jeter dans le coffre. Nicolas était scotché. Quand il eut, lui aussi, ingurgité sa bière, elle lui sortit la chemise du pantalon, attrapa sa main et sentit de la résistance.
« Ben quoi ? Tu veux qu'on avance côte à côte comme deux inconnus ?»
Nicolas finit par se laisser guider. Au fond, aucun de ses gestes ne lui déplaisait. Il était ferré depuis leur première rencontre. Ils remontèrent une allée de pavés et franchirent un portail ouvert et défoncé où se maintenaient deux gus en treillis, lunettes infrarouges perfectionnées sur l'œil et maquillage chromé.
des créatures tout droit sorties d'un film de Besson. Au-dessus d'eux, un écriteau en fer forgé. Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance. Les flics se firent palper de haut en bas.
On ne filme pas, on ne photographie pas, grogna l'un des Robocop. Bien clair ?
Limpide, répliqua Nicolas. Ils payèrent leur entrée à 20 € et arrivèrent au cœur d'une place de bâtiment en U. Sur la gauche, le fameux Christian Dolls discutait avec un groupe de types habillés à l'identique, tels des clones, avec une crête jaune pisse et leur indiquait une direction. Au-dessus d'eux, des grilles suspendues, des filets tendus, sur lesquels rampait une silhouette sainte dans une sorte de banilon géant. Pas de nez, pas d'yeux, pas de visage, juste une surface lisse et cauchemardesque. Nicolas pensa au cri de Munch et se demanda comment ce malade qui se déplaçait avec l'agilité d'une araignée respirait. La chose élança ses bras à travers la grille pour les attraper. Devant eux, dans l'ambiance sordide des éclairages pâles, une impression de chaos. Des machines industrielles avaient été transformées, désossées, mutées en monstres d'acier. Un écran géant projetait des images choc. Sœurs siamoises collées par le flanc, vis plantées dans des crânes, frics de tous bords, culs de jatte, manchots. Des enceintes crachaient une musique grasse, mélange de frictions métalliques, de bruissements d'ailes, de palpitations électriques. Des pancartes, des tags, des messages collés, barbouillés. Êtres hybrides. Mi-matière organique, mi-produits manufacturés. Reprendre possession des corps pour mieux maîtriser nos esprits. Vive l'accouplement avec les machines. Sous un porche, un bar bondé. Fût de bière, alcool fort. Audra l'entraîna vers le zinc. Commanda deux pressions d'un claquement de doigts. Elle sourit. Agitait la tête comme si son corps vibrait au rythme des basses, mais le nez dans sa mousse, elle bossait à plein régime. Elle matait du coin de l'œil les mutants tatoués, piercés, crêtes de métal, dents chromées. Plus loin, une femme en laisse avançait, guidée par un homme avec une prothèse métallique en guise de bras gauche. De quelle planète venaient ces hurluberlus ? Elle songea à un autre film avec Tarantino. Une nuit en enfer. Le genre de soirée qui pouvait virer au cauchemar. L'homme nylon bondit au-dessus d'eux et grimpa sur un toit où il exécuta au ralenti des contorsions bizarres. Nicolas essayait tant bien que mal de se décontracter, plongé au beau milieu de cette atmosphère d'hôpital psychiatrique tendance psychédélique. Les deux gérantes de l'hydre discutaient plus loin, orientées, accueillées. Rien à signaler de ce côté-là. Sur la droite, une porte où s'engouffraient des grappes de festivaliers. Verre à la main, sous l'impulsion d'Audra, Nicolas la suivit. Ils passèrent devant des salles avec des tableaux, des dessins, des photos. Nicolas les scruta. Homme-machine, mutation des corps, cyborg, des vieux à poils, sans dents, les couilles et les seins qui pendaient. Du crado. De la provoque, de la folie d'artiste, certes, mais rien d'illégal ou concernant leur enquête. Plus loin, une voûte où pendait une araignée géante en métal avec ses centaines d'yeux luisants. D'anciennes cuves peintes, déformées, tordues, renvoyant leurs propres reflets monstrueux, front haut, bouche infinie, membres tordus. Sur une scène aménagée, un quadra en costume, chemise blanche, cravate, assis dans un fauteuil club, dégustait du foie gras en le prélevant directement dans l'oie ouverte. Derrière, un écran semblait reproduire ce que son œil voyait, mais avec une définition dégradée, un plan rétinien ou mise en scène. D'un geste calme, il versa le champagne dans un saladier d'argent, s'en imprégna le visage et commença à s'auto-flageller avec des boules hérissées de pointes. Des pétales rouges fleurirent sur sa chemise. L'ambiance changea, la musique se fit stridente, la luminosité vira au bleu nuit. L'artiste se déshabilla, et dans sa chorégraphie dévoila un corps musclé d'un blanc laiteux emprisonné dans du fil de fer barbelé. La ronce d'acier était incrustée dans sa chair. Deux individus en bleu de travail arrivèrent, l'enchaînèrent, le traînèrent dans des couloirs jusqu'à une cour extérieure nichée derrière une tractopelle où une femme était pendue par les pieds, gesticulant comme un ver. Elle agitait un grand drapeau. Quelle chenille penserait à voler avant de devenir papillon? Les flics suivirent, emmenés par la foule silencieuse. Ils guettaient les recoins, les zones d'ombre à la recherche d'une porte, d'un signe. Mais rien. On attacha l'artiste à une croix placée devant un mur où était peint un circuit imprimé géant. On se mit à le fouetter. Nicolas y vit là le symbole de l'ouvrier qui se révolte contre son patron, version hard.
« T'as vu quelque chose ?»
murmura Nicolas à l'oreille d'Audra.
« Que dalle ! On retourne dans les bâtiments !»
Ils s'éloignèrent et Audra prit Nicolas par l'épaule.
« Sois pas trop guindé, on dirait qu'on va te remettre la Légion d'honneur, détends-toi »
« Je suis détendu, qu'est-ce que je dois faire ? Danser sur une table ?»
« Ça pourrait être bien, oui. »
Ils déambulèrent dans un labyrinthe de constructions délirantes, d'emboîtements improbables, où chaque tuyau, chaque échelle, chaque coude métallique révélait une œuvre d'art. Des inscriptions partout, au sol, sur les murs, des peintures sur d'autres peintures, de toutes origines, dans toutes les langues. Pas un centimètre carré n'avait échappé au délire d'un quelconque artiste. Dans le chaos, Audra s'arrêta devant une œuvre, un matériau jailli des mains d'un sculpteur de l'impossible, où le métal dansait sur un socle. Deux brins d'ADN enlacés comme des ballerines.
« J'ai déjà vu ce motif. Ça ne te dit rien ?»
Nicolas secoua la tête. Il était distrait par l'homme nylon, immobile sur un toit de tôle, en position de Spider-Man. Sa face élastique semblait les regarder. Les suivait-il ? Audra enragé. La sculpture, sa forme, cet objet, avaient un rapport avec leur enquête. Elle en était certaine. Mais lequel? Discrètement, elle fit une photo, puis emmena son partenaire vers la droite. Une nouvelle porte, des salles, des couloirs, qu'ils explorèrent sur des centaines de mètres dans les entrailles des bâtiments. Où se planquait cette fichue porte? Ils débouchèrent sur un tunnel de briques aux éclairages verdâtres, baignés d'une musique électro-hypnotique. Ils progressèrent parmi deux, trois ombres perdues comme eux. Des gens baisés dans une forêt de mains métalliques plantées dans le sol. Le froid s'était intensifié. À droite, une femme était piégée dans la carcasse d'une voiture réduite en cube à un point tel qu'elle semblait s'être trouvée à l'intérieur avant qu'on ne broie la tôle. Son bras gauche sortait du cube, sa nuque paraissait brisée en deux. Un genou lui rentrait presque dans l'oreille droite. L'œuvre portait un nom. Accident de chair. Marilyn Greystock. Ses lèvres grimaçaient de souffrance et Nicolas se dit que seule la désincarcération la sortirait de sa prison. Plus ils avançaient dans le tunnel, plus l'intensité lumineuse baissait, et plus les œuvres vivantes étaient folles, abominables. Bras articulés, Marilyn Van Haas. Réseau de fer, Greta Fitzgerald. Cheveux clous, Kevin Payne. Nicolas et Audra s'immobilisèrent devant l'homme écrou, Peter Klein. Piégé à l'intérieur du même réservoir qu'avait utilisé l'ange, un cylindre rempli de milliers d'écrous l'immergeant jusqu'au cou. Un câble était relié à un gros bouton vert placé en regard du cylindre. Les visiteurs le contemplaient, silencieux, chuchotés entre eux. Ils avaient dû faire le rapprochement avec les cylindres vus sur Internet. Ce qui n'empêcha pas un type d'appuyer sur le bouton à plusieurs reprises. À chaque pression, un écrou roulait dans un tuyau relié au couvercle et venait percuter la tête du performeur avant de rejoindre les autres. Dans quelques heures, à ce rythme-là, l'artiste serait submergé et Nicolas se demanda si on pouvait survivre à une noyade d'écrous. « Bon sang !» marmonna Audra.
L'ange du futur était venu ici. Cette œuvre l'avait de toute évidence influencé pour mettre en place son stratagème. Ou l'inverse. Cet artiste belge s'était-il inspiré de l'ange par pure provocation? Nicolas se dit qu'entre un meurtrier et un artiste, il n'y avait parfois qu'un pas. Le tunnel virait à gauche, là où s'engageaient les visiteurs. Mais Audra donna un coup à Nicolas. Sur la droite, au fond d'une alcôve protégée par une grille, encombrée de matériel de spectacle et de couverture, une porte en bois, fermée et peu éclairée, avec un dessin gravé. L'hydre de Lerne, avec ses 9 têtes furieuses. Sur la grille, un panneau « Défense d'entrée ». Audra sut d'instinct qu'il cheminait sur la bonne voie. Elle poussa la grille et marcha entre les objets hétéroclites. Nicolas lui emboîta le pas. La porte en bois n'était pas verrouillée. Il suffisait juste de tirer pour l'ouvrir. Des escaliers s'enfonçaient dans l'obscurité. Peut-être 10 mètres plus bas, encore des lueurs vertes. En se penchant, Nicolas sentit l'angoisse déployer ses racines dans chaque fibre de ses muscles. Il crut qu'il allait tomber, mais il tenait sur ses jambes. Le blocage n'était plus aussi fort. Les effets apaisants des bières, son traitement. « Avance !» murmura-t-il. « Avance !» Audra s'engouffra dans les profondeurs. La température baissa encore d'un cran. Leurs ombres grandirent, les devancèrent. Derrière eux, la porte se referma avec un claquement. Au fond, un couloir en briques sombres, des diodes au sol, comme sur les pistes d'aéroport. Et au bout de l'allée, une ombre, debout, devant une autre porte, métallique celle-là. On pouvait entendre des vibrations depuis l'intérieur des murs. L'enfer était là, pas loin. Les deux flics s'approchèrent, l'un derrière l'autre, car il n'y avait pas de place pour deux. Nicolas s'évertuait à maîtriser sa respiration pour tenter de calmer ses nerfs. L'homme portait un costume et était aussi large que deux réunis. Un talkie-walkie grésillait à sa ceinture. « On s'est perdu ?» Sa gueule restait fermée comme un coffre. À sa droite, sur la porte, une poignée grise positionnée sous un rectangle noir. Audra y alla à l'instinct. Elle avança son poignet gauche, porteur de la puce, vers la surface plate. Il y eut un bip, et la porte s'écarta juste assez pour qu'elle circule. L'homme acquiesça, baissant les paupières. Ils y étaient. Elle s'engagea de l'autre côté. Nicolas voulut suivre, mais le gardien lui posa la main sur la poitrine. La porte se referma d'un coup sec. « Maintenant, c'est ton tour !» Nicolas était secoué. Comme Audra, il approcha sa main, mais rien ne se produisit évidemment. Il recommença. « Ma puce doit déconner !» L'individu lui adressa un sourire pervers. « Dans ce cas, t'entre pas !» Nicolas se mit à piétiner. Il était piégé. « Il y en a pour combien de temps ?» L'homme ne dit rien, la main sur son toki. Trop de questions, d'insistance, et Nicolas attirerait l'attention. Il observa le visage impassible et n'eut d'autre choix que de rebrousser chemin. Il s'en voulait à mort. Audra était seul dans l'inconnu, perdu dans les entrailles de l'hydre. Et il ne pouvait rien faire pour l'aider.